Hello, hello, bienvenue dans Step Back, vos 30 minutes de basket en podcast chaque semaine avec la rédaction de l'équipe. Après Victor Wembanyama l'année dernière, un Français pourrait à nouveau être appelé en premier lors de la draft NBA en juin prochain. Deux candidats tricolores se détachent. Il y a quelques semaines, on avait dressé le portrait de Zachary Risaché. Aujourd'hui, place à un autre grand espoir bleu-blanc-rouge, Alexandre Sarr. L'intérieur jouait cette année à Perth, en Australie. On va vous présenter son profil, retracer sa jeune carrière et se demander ensemble à quoi peut-il aspirer en NBA. Pour en parler, j'accueille un petit nouveau dans Step Back, Yann Soudé. Yann, tu travailles au magazine L'Équipe.
Absolument.
Tu es l'un des rares journalistes, peut-être le seul même, à être allé à Perth pour rencontrer et voir jouer Alexandre Sarr. Salut Yann, bienvenue parmi nous.
Salut, merci.
Et lui, on ne le présente plus, journaliste à la rubrique basket et pilier de Step Back. Samy Sadik est avec nous également. Hello Samy.
Hello Gaëtan, bonjour à tous.
Allez, tout le monde est prêt, début du game. Alexandre Sarr a donc 18 ans, il fêtera ses 19 ans à la fin du mois. Yann, est-ce que tu peux nous raconter quel joueur il est, quel est son profil ?
Eh bien alors, très grand déjà, 2m16. Un profil assez longiligne, il fait 98 kilos seulement, donc voilà, pas très épais, 2m26 d'envergure, très long segment, et son profil de jeu, il est, bon, ses qualités sont essentiellement défensives, pour l'instant c'est comme ça qu'il est présenté en tout cas, une grosse mobilité pour sa taille, qui fait qu'il est très polyvalent, qu'il peut défendre sur quasiment tous les postes, en tout cas lui c'est ce qu'il dit. Offensivement, il y a plus de réserves sur son jeu pour l'instant, mais il a montré des choses qui laissent entrevoir un gros potentiel aussi de ce côté-là. Donc,
tu disais intérieur donc très longiligne, on le compare un peu à des pivots NBA comme Evan Mobley ou Nick Claxton.
Ouais, la comparaison la plus flatteuse, c'est Jaren Jackson aujourd'hui même.
Qui a pris un peu plus de muscle.
Ouais,
mais,
c'est ça.
Mais toi, tu disais dans l'article que tu as publié dans le mag que ça ne lui plaisait pas forcément, ces comparaisons.
Ouais.
Lui, il se voit comment, en fait ?
Comme très souvent, quand on pose ces questions aux joueurs, ils nous disent j'ai envie d'être le... Voilà, il m'a dit j'ai envie d'être Alexandre Sarr. Il comprend les comparaisons, mais il les nuance un peu. Il dit que c'est ces joueurs-là, les Jackson, Mobley, Claxton, c'est surtout des joueurs qui lui ressemblent physiquement. Et lui, il estime que son potentiel est plus large que ça, quoi.
Samy, donc Yann le disait, avant tout un très bon défenseur, Alexandre Sarr.
Ouais, exactement. Ce qui frappe un peu quand on regarde ces matchs, ces highlights en Australie, c'est la mobilité, à quel point il y a des instincts défensifs. En fait, on l'a vu tant de fois aller chercher le meneur un peu trop confiant, l'extérieur un peu trop confiant, au dernier moment sur un contre. Il est redoutable quand il vient en aide, il arrive à tenir ses adversaires. Je me souviens 2-3 fois des pivots de NBL ont tenté de le défier.
Donc,
sur des drives.
NBL, la ligue océanienne.
Exactement, parce qu'il y a une équipe néo-zélandaise. Mais donc, c'est les instincts défensifs qui frappent le plus et qui lui valent aujourd'hui cette belle cote en vue de la draft. Son sélectionneur en U19, quand on l'avait eu, Lamine Kébé, l'été dernier, disait qu'il était vraiment dans la dissuasion. C'est un joueur qui va impacter tout de suite une défense en NBA, sans doute au niveau de d'être ce dernier rempart qui va faire changer d'avis quelques extérieurs sur leur choix en attaquant le cercle. Et effectivement, c'est en attaque que c'est là où c'est très intéressant au niveau de son potentiel, parce que la meilleure version d'Alexandre Sarr, ce serait effectivement un pivot déjà très 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 bon défensivement, dans la mobilité, mais avec un shoot. Il travaille sur ce tir à 3 points, il travaille sur ses tirs mi-distance. Et bon, pour l'instant, il est à 30% à 3 points cette saison, mais c'est ça, je pense, qui fait surtout saliver les scouts, d'avoir vraiment ces deux côtés du terrain pour faire un joueur quasiment unique.
On l'a vu sur les highlights, alors il y a beaucoup de contres en haute altitude, on l'a dit, il est très grand. Il y a aussi cette capacité à changer en défense, à défendre parfois sur les petits. Yann, est-ce qu'il prend du plaisir ? Est-ce qu'on le sent que dans la mentalité, c'est un truc qui l'anime un peu, la défense, le fait d'éteindre un peu ses adversaires ?
Ouais, vraiment. Et c'est frappant quand tu le vois en vrai, du coup. Moi, j'ai une image encore quand j'ai assisté donc au premier match des playoffs là-bas, donc dans son équipe de Perth. Et j'ai l'image d'un arrière adverse qui pénètre ligne de fond, qui se retrouve face à lui et qui fait demi-tour, en fait, qui essaye même pas de shooter parce que c'est... Enfin, physiquement, il est fin, mais il en impose vraiment, en fait, notamment parce qu'il a des très longs bras et des très longues jambes. Et ça, c'est un truc dans... Ouais, il prend vraiment du plaisir à bien défendre, ouais.
Je me souviens, au Mondial U19, l'équipe de France dont il faisait partie bat les États-Unis. C'était la première fois que ça arrive dans une compétition jeune. Et à la fin, c'était tendu. Et on le voit trash-talker un meneur qui était venu un peu la fleur au fusil au cercle et qui s'était fait renvoyer sèchement chez lui. Donc il aime ça, ouais. On sent qu'il aime martyriser l'adversaire en défense.
Mais cela dit, il veut pas, ça il me l'a bien dit, il veut pas laisser penser qu'il sera seulement un défenseur en NBA. Ça, il a bien insisté là-dessus. Il était dans une situation à peur cette année où il n'avait pas besoin de créer spécialement pour lui. Il y avait des arrières très forts à côté, scoreurs. Mais il semble persuadé que dans un autre rôle, une autre situation, il sera capable d'être une menace offensive aussi. Et ouais, c'est important pour lui, ça.
Bah, parlons un peu de l'aspect offensif. Alors, cette saison avec Perse, il tournait à 9,4 points. Il ne jouait que 17,3 minutes. C'est quoi ses points forts offensivement? Parce qu'on l'a dit, il est grand, mais il est aussi très délié.
Son entraîneur me disait qu'il avait beaucoup progressé sur son shoot. Il n'en prend pas beaucoup à 3 points cette saison. C'est 2 par match. Mais effectivement, comme je le disais avant, il n'avait pas besoin d'en prendre beaucoup. Il me disait qu'il avait beaucoup progressé sur les pick and roll aussi, notamment la compréhension de ce jeu-là. Après, c'est offensivement ce qu'on a vu cette saison, c'est essentiellement il finit les actions plus qu'il les initie, en fait. Donc c'est difficile de se projeter, mais je pense que le shoot, il l'a. Il est capable de créer pour lui aussi, même si ce ne sera pas Kevin Durant. Voilà. Mais il n'aura pas besoin de ça. Mais en tout cas, ouais, y a un potentiel de ce point de vue-là aussi. Ouais.
Un de ses matchs références, c'était pas en Australie, c'est quand il est venu avec Perth justement défier le G League Ignite en octobre, ce qu'il a un peu mis dans cette course au numéro 1 de draft. Et il fait un match à 26 points où, c'est ce que disait Yann, il y a beaucoup de dunks, de rebonds offensifs, beaucoup d'actions finies au cercle. Mais on le voit quand même un petit peu parfois monter la balle sur une séquence, aller défier son adversaire direct en drive en 1 contre 1. Surtout, voilà, on le cherche beaucoup. Côté Perth, parce qu'il est très mobile, on l'a dit, et surtout, ouais, il a quand même un bon toucher. Son sélectionneur en U19 disait des mains de feu, ouais, au cercle. On voit que c'est déjà d'assez haut niveau sur ce point.
C'est un peu les profils de... Alors, le mot va finir par être galvaudé, mais de licorne, de très grands joueurs capables d'un peu tout faire.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est important. Ça, on en a pas mal parlé aussi quand je suis allé le voir à Perth. Voilà, il est assez fin. Il sait qu'il va devoir s'endurcir, s'épaissir. Il sait qu'il va devoir bosser en NBA là-dessus, qu'on va lui demander de prendre du poids. Il en a déjà pris pas mal ces 2-3 dernières années. Là, il était à 80 kilos quand il est arrivé dans l'Overtime Elite aux États-Unis. Il est à 98 aujourd'hui. Donc, il s'est bien épaissi, mais il ne veut pas trop s'épaissir. Il me dit qu'il ne veut pas devenir un tank et qu'il n'en a pas besoin pour s'installer en NBA et durer en NBA. De toute façon, on voit aujourd'hui avec des profils comme celui de Victor Wembanyama, Chet Holmgren aussi, qu'on peut très bien exister en NBA sans être un monstre physique, justement. Et c'est son cas aussi, ouais.
Alors, on a passé du temps pour vous expliquer son profil, parce que c'est un joueur qu'on a très peu vu. Il fallait prendre un peu ce temps pour vous raconter quel joueur est Alexandre Sarr. Et si on le connaît aussi peu, en fait, c'est parce qu'il a très peu joué en France. Il est parti très jeune, au Real Madrid, en fait, et il a un parcours un peu atypique.
Exactement, je crois qu'il part à 14 ans au Real Madrid en 2019. Et c'est vrai qu'on a tendance, nous, à l'oublier en France. On parle des universités américaines, de l'Australie, de la G-League, mais aussi le Real Madrid, les clubs espagnols. Ils attirent nos talents internationaux. Sidi Soko, qui est aux Spurs aujourd'hui, il a été formé en partie à Baskonia. Victor Wembanyama avait fait un essai à Barcelone. Et donc, effectivement, Alex Sarr a fait 2 saisons au centre de formation du Real. Et ensuite, il a rejoint Overtime Elite, qui est une sorte de ligue, pas semi-pro, mais une de ces nouvelles passerelles un petit peu entre le lycée et la NBA.
Pas complètement pro, ils sont payés.
Enfin, je veux dire semi-pro dans le sens, ils sont payés, oui. mais tu n'es pas vraiment sur une... Tu n'es pas vraiment, en termes de comparaison, ce n'est pas une ligue pro comme il l'a eu en Australie, comme il l'a eu en France. Ce n'est pas le même niveau, en fait. On est beaucoup dans la mise en valeur des jeunes. Ils sont payés, tu l'as dit. Ils gardent même leur éligibilité pour revenir à l'université. C'est pour ça que je disais que c'était semi-pro, parce que tu peux quand même faire le pas de recul une fois que tu y es.
Et donc il y a des jeunes qui jouent qu'entre eux, du coup.
Exactement. Le but, c'était ça, c'était de mettre en valeur les talents qu'ils peuvent récupérer en leur offrant autre chose que la NCAA. Il a fait 2 ans là-bas, mais le déclic, c'est surtout quand même cette année à Perth. Il n'est pas aussi coté qu'il ne l'était, je trouve, quand il sort d'Overtime Elite.
Yann, est-ce qu'il t'a expliqué ce choix de s'exiler à l'étranger très tôt, d'avoir ce parcours un peu différent, ou qu'est-ce que ça, ce que ça lui a apporté dans sa formation de jeune joueur?
Je vais poser ces questions. Il a pas été, il est pas très bavard. Pas très bavard de ce point de vue-là sur son parcours et sur le pourquoi de ses choix. Son frère que j'ai eu au téléphone me dit que bon, ses parents sont très présents dans sa vie, dans la vie des deux frères. Ils font beaucoup de recherches à chaque fois sur quelle est la situation la plus adaptée pour leurs deux enfants.
Donc son frère Olivier Sarr, qui est pivot, absolument, et lui aussi qui joue en NBA à Oklahoma City.
C'est ça. Et voilà, son frère dit que Alexandre Sarr donc a toujours voulu plus de compétition, plus de niveau, et que la question qui se pose à chaque intersaison, c'est qu'est-ce qui va m'amener au plus haut niveau. Je pense que le choix du Real Madrid, quand on vous propose de venir au Real Madrid à 14 ans, c'est difficile à refuser. Il dit que ça a été difficile au début forcément de quitter sa famille, mais que c'est à ce moment-là qu'il a compris que son objectif devenait une réalité en fait. Et je pense que ça, en termes de maturité, moi c'est un truc qui m'a frappé quand je l'ai vu, la maturité qu'il a. J'avais l'impression qu'il avait 10 ans de plus que ce qu'il a vraiment, et je pense que ce parcours-là l'a aidé forcément là-dessus. Ouais.
Donc on l'a dit, Real Madrid, 2 ans dans cette ligue Overtime Elite, et vous me dites que c'est une ligue un peu dédiée à la formation, mais ça vaut quoi? Qualifier le niveau de cette ligue, est-ce qu'on y progresse vraiment?
Il faudra encore attendre un petit peu, parce que là, les premiers prospects d'Overtime Elite commencent à arriver en NBA. Là, on a les jumeaux Amen et Ausar Thompson cette année, qui étaient un peu les figures du projet qui arrivent en NBA. Les deux font une saison rookie plutôt honnête, mais sans, entre guillemets, sans plus. Donc voilà, Overtime Elite souffre un petit peu de ça pour l'instant, tant qu'ils n'auront pas vraiment prouvé que grâce à eux, un rookie NBA aura tout de suite percé, c'est plus compliqué. Et surtout, on voit que beaucoup de leurs joueurs, en fait, certains reviennent en université, certains passent en G-League Ignite, ou certains, comme Alexandre Sarr, partent finir leur formation en Australie. Et donc, ça pose question un petit peu quand même sur le... est-ce qu'on peut rejoindre la NBA en restant à Overtime Elite?
Il m'en a pas dit du mal du coup quand je l'ai vu, mais ce qu'il m'a dit en revanche sur son expérience en Australie, c'est que ça avait été un grand changement pour lui de jouer pour gagner. Et ça, je pense que c'est la différence majeure aussi entre ce qu'il a connu à l'Overtime Elite et en Australie. C'est qu'en Australie, il était dans un championnat professionnel et dans une équipe qui est la plus titrée de l'histoire de ce championnat, qui joue vraiment chaque saison pour aller au bout. Et ouais, c'est une différence. Enfin, c'est évidemment pas la même chose que quand tu joues contre des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans et qu'on prépare surtout à la NBA plus qu'à gagner des titres. Voilà.
Et justement, ce choix de l'Australie, alors comment ça s'est fait? Est-ce que c'est le club de Perth qui est venu, qui allait le chercher? Comment s'est noué le lien?
En fait, l'Australie, c'est un peu particulier parce qu'il y a depuis 2019 un programme qui s'appelle Next Stars. L'idée, c'est pour chaque franchise qui décide d'engager une Next Star, c'est d'accélérer le développement d'un aspirant à la NBA, ce qu'on appelle les prospects. Et voilà, donc Perth n'avait jamais eu de Next Star avant lui, c'est pas obligatoire. C'est des contrats qui n'entrent pas dans le calcul du salary cap, des contrats qui sont payés par la ligue et pas par les clubs, mais les clubs ont l'obligation de fournir un cadre propice au développement du joueur, et c'est vraiment ce qui a compté pour Sarr, du coup, qui avait une autre option au moins, c'était la G League Ignite, et voilà, il a estimé qu'il progresserait plus vite en étant dans ce cadre-là, un peu plus chouchouté, ouais, entre guillemets.
Parce qu'il y a des bons exemples qui commencent à sortir de ce programme Next Stars. LaMelo Ball l'avait fait avant de se présenter à la draft, où il était pris en deuxième. Josh Giddey, je crois, est pris cinquième. Lui, bon, venait d'Australie, donc c'était une Next Star locale, entre guillemets. Mais même côté français, on en a eu 3 ces dernières saisons qui ont été draftés. Ousmane Dieng, Hugo Besson, et j'en oublie un, et Ryan Rupert.
C'est ça.
Et Sarr sera le quatrième. Donc en fait, c'est un chemin qui commence à être pas mal exploré chaque année. Et ce que Yann disait, effectivement, il y a un cadre qui est offert à ces Next Stars en termes de, par exemple, de développement individuel, qui est un peu l'enjeu aujourd'hui pour les futurs joueurs NBA. Et aussi, alors c'est pas vraiment dans le contrat, mais il y a quand même l'engagement qu'ils joueront, même si c'est pas écrit dans le contrat, vous jouerez 20 minutes, mais... Par exemple, pour Besson et Ousmane Dieng, leur coach disait, oui, il a dit à l'équipe en début de saison que c'est deux joueurs qui joueront. Après, c'était une équipe qui, elle, visait pas les playoffs et qui a fini très bas dans le classement. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a un peu ce terrain propice. Et j'ajouterais juste que la NBL, je crois que c'est la ligue, en termes de nombre de possessions jouées, qui se rapproche le plus de la NBA.
Exactement.
C'est un jeu très rapide qui facilite peut-être la transition.
Et assez dur aussi dans le combat physique, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de championnats qui sont physiques, mais ce que me disait son entraîneur, c'est que ce qui change, c'est la façon dont les contacts sont sifflés d'une ligue à l'autre. Et en Australie, on laisse pas mal jouer. Et donc pour lui qui est fin, qui a été opposé à des joueurs forcément plus épais que lui, et il y avait un sujet avec lui aussi sur sa capacité à répéter les efforts. Son entraîneur lui disait que c'était peut-être le plus gros point de progrès possible pour lui. Et donc le fait de se confronter à ce championnat-là, je pense que ça a été très bénéfique dans sa progression. Ouais.
Puis je trouve qu'on a vraiment vu la progression par rapport au Mondial U19 de l'été dernier, puisque l'équipe de France fait deuxième, mais avec une génération, il y avait aussi Rizaché, Melvin Agença qui est aussi candidat à la draft, mais on l'avait vu dans ce collectif français, il n'était pas vraiment sorti du lot un peu sur la défense, sur la dissuasion, mais il n'avait pas été élu dans le 5 de la compétition par exemple. Et là effectivement, cette année à peur, en termes de dureté, de se confronter à un championnat pro, je trouve qu'on a vu, on l'a vu d'énormes progrès cette année.
Puis de jouer à la gagne, parce que tu le disais, Yann Peirce a fini deuxième de la saison régulière, donc
c'est
a
ça.
Été éliminé en demi-finale des playoffs.
Par le futur vainqueur du championnat, ouais, donc.
Mais il y avait un vrai enjeu, quoi. C'est des années forcément très formatrices.
C'est ça, c'est les Peirce et les Wildcats. C'est la franchise la plus titrée de NBL. Je crois que c'est 10 titres de champion depuis 90. Le dernier date de 2020, mais c'est vraiment une franchise qui compte, qui est toujours présente. Et je pense que le fait qu'ils aient... c'était leur première Next Star, comme je disais avant, et c'est aussi ça que... Je pense que ça illustre aussi le potentiel qu'ils ont vu en SAR, parce qu'ils ne seraient pas allés chercher n'importe qui. C'est pas disons que la formation de prospect NBA, ce n'est pas leur priorité. Donc, ils ont vraiment vu quelque chose en SAR. Et je pense que ça a été bénéfique pour lui d'être dans ce cadre-là.
On le sait, les scouts NBA, donc les recruteurs, ceux qui travaillent, qui observent les prospects pour les franchises, regardent évidemment le jeu, mais ils étudient aussi beaucoup l'attitude, l'homme derrière l'athlète. Yann, tu commençais à nous en parler en disant qu'il te semblait très mature, mais c'est quel type d'être humain, de personnage, Alexandre Sarr ?
Frappé par sa maturité, comme j'ai dit. Après, c'est quelqu'un de très posé, un petit peu timide aussi, peut-être.
Encore jeune.
Ouais, forcément. Encore jeune, donc forcément. Mais très posé, très calme. Son frère m'a dit très observateur. C'est quelqu'un qui... Il s'intéresse à plein de choses, pas qu'au basket. C'est aussi l'influence de son frère qui lui répète souvent que il faut que... C'est important d'avoir d'autres passions dans la vie que le basket pour ne pas se laisser enfermer dans ses pensées quand ça ne va pas. Mais lui, par exemple, il est passionné de pêche. Passionné. Il pêche très souvent, en tout cas, quand il en a l'occasion. Il a fait de la trompette quand il était petit. Il écoute beaucoup de musique. Puis au-delà de ça, il m'a paru... je pense que la maturité, c'est important, et ça tient aussi à son frère. Ils ont à peu près le même groupe d'amis, plutôt de l'âge d'Olivier que de l'âge d'Alexandre, du coup. Donc, il est habitué depuis un moment à côtoyer des garçons plus âgés que lui, et je pense que ça se ressent aussi, ouais.
Quel rôle joue sa famille aussi dans tout ça ? Forcément, on le sait, des familles de basketteurs, c'est le cas de Zachary Rizaché, l'autre un peu prospect français qu'on attend à cette draft. Et là, pareil, il y a une famille qui est très présente derrière lui.
Ouais, c'est ça. Son frère, déjà, pour rester sur son frère, ils se parlent tous les jours, ils sont vraiment très très proches. Olivier regardait tous les matchs d'Alexandre, il les débriefait, et inversement, Alexandre regarde tous les matchs d'OKC. Alexandre pose beaucoup de questions aussi à Olivier sur comment ça se passe la NBA, quand on est en déplacement, qu'est-ce qui se passe. Ils ont des discussions très techniques sur des joueurs à leur poste, par exemple. C'est ça aussi qui me laisse penser que Alexandre, du coup, a un temps d'avance sur les jeunes de son âge, c'est que il se projette plus facilement en NBA. Et au-delà de son frère, il y a ses parents qui sont, pareil, très impliqués dans ses choix de carrière et qui l'ont suivi en Australie. Il ne l'avait pas fait en Espagne et aux États-Unis avant ça, mais ils l'ont suivi en Australie. Donc, ils se sont installés ensemble dans un appartement pas très loin du centre-ville, un endroit qui s'appelle Scarborough Beach. Donc vraiment décor de carte postale avec la plage, les palmiers. Voilà, et donc ils ont pris sa mère travaille dans l'assurance, son père dans l'informatique. Ils ont pris un congé sabbatique tous les deux pour l'accompagner et l'aider dans son installation. Et ça, je pense, ça a été. Voilà, son frère dit que ça a été primordial et que c'est un ancrage important, ouais, pour lui.
On a fait le tour de son profil de joueur, d'athlète, de personnage aussi. Le futur proche maintenant, c'est la draft NBA le 26 juin. Samy, on parle de lui comme d'un possible numéro 1. C'est le favori, l'un des favoris ?
C'est une cuvée un petit peu difficile à décrypter parce que les prévisions dans le top 10, top 15 bougent énormément. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'un de ceux quand même qui reste le plus stable dans les différents médias américains qui donnent leur mock draft, donc un peu ses prévisions, c'est lui, c'est Alexandre Sarr. Il est régulièrement annoncé numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Parce qu'on en a parlé, il y a ce potentiel, en fait, il y a ce potentiel tellement intriguant d'instinct défensif déjà présent, avec un potentiel offensif qui commence peut-être seulement à explorer. Donc si l'équipe qui est en numéro 1 veut le plus gros potentiel de la QV, ce sera probablement vers Sarr que son choix se portera. Après, c'est une QV un petit peu peut-être plus faible que l'an passé, puisque l'an passé, il y avait Victor Wembanyama, mais aussi d'autres très bons joueurs. On a vu Brandon Miller, qui fait une très bonne saison rookie à Charlotte. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est les échos qui viennent des États-Unis que les scouts, entre guillemets, la comparent à d'autres drafts moins riches, peut-être au sommet, mais comme 2013, mais qui avaient donné des All-Stars, comme Giannis Antetokounmpo ou Rudy Gobert. Donc, numéro un sûr, c'est impossible de le dire. Mais c'est un des joueurs qui est resté le plus stable au sommet de ses prévisions depuis octobre.
Comment on peut l'imaginer en NBA, Yann, qu'est-ce qu'il pourrait apporter tout de suite à une franchise NBA? Quelle place il pourrait occuper? Comment tu l'imagines, toi?
Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'imagine avec un impact immédiat. Il m'a dit « je ne veux pas être vu comme un projet sur 3 ou 4 ans », comme on le voit régulièrement, même avec des joueurs qui sont draftés au premier tour. Lui, il se sent capable d'avoir un rôle en NBA tout de suite. Je l'ai dit avant, il faudra qu'il bosse physiquement, donc ça va être compliqué, il va se faire rentrer dedans. C'est un intérieur, on sait les profils qu'il y a en NBA. Voilà, je pense son rôle sera essentiellement défensif au départ, parce qu'on sait que c'est ce qui fait saliver les dirigeants de franchise essentiellement aujourd'hui. Mais lui, en tout cas, s'imagine avec un vrai rôle tout de suite, quoi.
Il a le profil pour s'y installer, plutôt lieutenant, futur All-Star peut-être, même si c'est dur de se projeter.
Il faudra voir dans la franchise effectivement dans laquelle il tombe, parce que s'il tombe dans une franchise où, entre guillemets, tout est en ruine, on attendra peut-être beaucoup plus de lui, peut-être qu'on le mettra déjà dans un costume de leader, alors que, par exemple, pour donner une franchise qui pourrait être dans le top 3-4, peut-être Charlotte, où il y a déjà un meneur All-Star, il serait peut-être attendu comme le lieutenant plus à ce moment-là, c'est le plus gros potentiel de la QV, c'est un des joueurs qu'on imagine de cette QV pouvoir devenir All-Star, même si c'est des prédictions et tout peut changer en 2-3 ans. Donc oui, il peut s'y installer, il aura un impact immédiat, moi je suis d'accord avec Yann sur le côté défensif, parce qu'un intérieur qui défend, un intérieur qui protège son cercle, qui peut switcher sur les petits, c'est une valeur super rare et une valeur super valorisée en NBA. Effectivement, après, je pense que comme il sera sélectionné haut, sa franchise lui donnera le temps aussi de développer son potentiel offensif, même si lui ne veut pas être un projet, c'est quand même quelque chose qui va prendre un peu de temps, on le voit avec Victor Wembanyama, le shoot est en train de progresser, mais c'est pas un sniper comme on pourrait dire, donc ça prendra un peu de temps de ce côté-là.
Est-ce qu'il a une préférence, Yann Alexandre Sarr, pour la franchise? Est-ce que vous avez abordé ce sujet ou pas du tout? Est-ce qu'il se voit plus?
Non, c'est pas un sujet qu'on a spécialement abordé. Après, il le dit souvent, son rêve absolu, c'est de jouer avec son frère, que ce soit en NBA ou en équipe de France. Ce sera pas Oklahoma City forcément cette saison. Mais non, après, je pense que évidemment, ce serait plus. Il faudrait qu'il tombe dans une franchise saine, idéalement, où il n'aura pas trop de. Qu'on lui demande pas trop tout de suite, parce que je ne sais pas s'il est. Je pense qu'il est capable d'avoir un impact immédiat, mais il ne faudrait pas qu'il ait trop de responsabilités tout de suite, je pense non plus. Ce ne serait pas sain pour son développement, parce que il n'est pas encore fini, comme on dit. Son corps a besoin il a besoin de s'épaissir encore.
Samy, toi, tu le vois. Est-ce que tu le vois plus dans une franchise qu'une autre? Alors, les équipes là, qui tankent, là, enfin, qui pourraient avoir le premier choix, on a Toronto, Détroit, les Spurs peut-être.
Les Spurs, ça sont je pense qu'ils chercheront plus un meneur, logiquement, même si Wembanyama Sarr dans la raquette, ce serait assez intriguant. Pour le coup, ce serait à contre-courant d'une tendance où on a des intérieurs plus petits. Moi, je le verrais bien, j'ai dit Charlotte. Charlotte sera probablement dans les 4-5 premiers choix. Peut-être Portland aussi, qui se cherche beaucoup, qui a pas vraiment encore avancé sa reconstruction. J'espère pour lui qu'il n'ira pas à Détroit, parce que Détroit, c'est une des franchises les plus... pour le dire poliment, les moins compétentes en termes de développement de jeunes ces dernières années.
Puis il y a déjà Jalen Duren,
Isaiah Stewart, et surtout c'est une équipe qui tanque depuis 5 ans et ça fait beaucoup de temps.
Donc ça s'est pas très bien passé pour les Français ces dernières années. Non,
exactement, c'est Kudumbuya et Killian Hayes pour des raisons différentes. Ça s'est fini plutôt vite l'aventure. Donc voilà, c'est éviter ces franchises pas trop saines. Et effectivement, une équipe comme Charlotte, Memphis, c'est très intriguant, mais il y a déjà Jaren Jackson Jr. Sinon voilà, Washington pourquoi pas, il y a Bilal Koulibaly qui est déjà là. Eux commencent aussi leur reconstruction, vont peut-être devoir se séparer de joueurs à qui donnent des responsabilités cette année, comme Poole ou Kuzma, mais il y aurait la patience en tout cas, je pense, s'ils tombaient à Washington pour le développer.
Eh bien, on suivra ça avec attention, évidemment, sur le site, l'équipe, dans le journal, sur tous nos supports habituels. On verra bien si Alexandre Sarr sera numéro 1, lui ou Zachary Rizaché. En tout cas, on suivra ça, évidemment. Merci, messieurs, pour ce podcast. Vous pouvez retrouver, vous qui nous écoutez, le reportage de Yann Appers en Australie dans le magazine L'Équipe. Et en ligne, évidemment, sur le site L'Équipe, si vous voulez lire le reportage de Yann. Donc, merci encore de nous avoir écoutés. Merci à Léa Léostic à la réalisation. À la semaine prochaine. Ciao.